France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Robert Badinter fait grand homme, l'ancien ministre de la Justice entre au Panthéon ce soir. Couronnement d'une vie d'engagement, mais qui suscite encore l'hostilité ces dernières heures. Sa tombe a été taguée à Bagneux, près de Paris. Nous verrons cela. Et puis dans une demi-heure, nous serons au Panthéon pour une visite en avant-première de l'exposition consacrée à l'homme qui en France a aboli la peine de mort.
J'ai toujours pensé comme lui, même petite, même avant de vraiment comprendre son combat, que tout le monde avait le droit à une seconde chance ou à une chance d'avoir une seconde chance, que même si on avait fait des choses très moches, on avait le droit d'être un humain.
Visite avec sa petite nièce Rachel Badinter et avec le journaliste Eric Fotorino qui en est le commissaire. À suivre encore, l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Signature imminente, quelle réaction sur place? Que va-t-il se passer dans les prochaines heures? Nous sommes à Jérusalem dans quelques minutes. On verra aussi avec vous, bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Quel rôle a joué Donald Trump?
Oui, il a mis tout son poids dans la balance, mais le chemin est encore long pour la paix réellement et pas seulement la libération des otages.
À tout de suite avec vous Étienne, et avec un homme qui a dédié sa vie à la paix entre Palestiniens et Israéliens. C'est Ofer Bronstein, le président du Forum international pour la paix, qui sera avec nous dans quelques minutes. Nous parlerons aussi de la situation politique dans le pays. Retour à la case départ. Le président de la République a promis hier soir un Premier ministre d'ici demain soir. Et puis un prix Nobel de littérature. Bonjour Ilana Mourioussef.
Bonjour.
Est-ce qu'on en connaît l'identité?
Oui, absolument. On vient de l'apprendre. C'est un Hongrois. Le prix Nobel de littérature 2025 est attribué à László Aznárkay. Pardon pour la prononciation, je ne suis pas tout à fait sûre, qui est très largement traduit en France. Et voilà, c'est une formidable nouvelle.
On va en parler davantage et de son œuvre également avec vous dans quelques minutes. Sans oublier, juste avant 14h, c'est une chanson, la copénienne Florence Vella et la musique brésilienne d'Elis Regina. Ce sera avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est là que repose la dépouille de Robert Badinter depuis sa mort le 9 février 2024 et elle y restera malgré la panthéonisation de ce soir. Le cimetière de Bagneux, près de Paris, la tombe de l'ancien ministre de la Justice y a été découverte. Tagué. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
C'est la mairie qui l'a constaté.
Oui, ce matin, manifestation. En fait, un promeneur qui l'a constaté, qui a aussitôt prévenu le gardien. C'est un caveau en marbre noir sur lequel des petits cailloux sont posés en signe de respect, comme le veut la tradition juive. Il a donc été dégradé par des inscriptions qui dénigrent les combats politiques de l'ancien ministre de la Justice. Selon une source policière, une inscription haineuse est taguée, parodiant un peu d'ailleurs la formule du Panthéon aux grands hommes la patrie reconnaît. Éternelle est leur reconnaissance, les assassins, les pédos, les violeurs, la République les sanctifie. Voilà ce qu'on peut lire apparemment sur ce tag. C'est une tombe, donc cette tombe elle est située dans le carré juif, c'est la seule visée par ces tags. Robert Badinter est enterré là, dans le cimetière parisien de Bagneux, précisément dans la 3e division, un cimetière assez champêtre, assez boisé. Il a été, il faut savoir, sénateur de ce département des Hauts-de-Seine de 95 à 2011. Sa grand-mère est enterrée à Bagneux, là, en 1942. Et puis, accessoirement, son beau-père, Marcel Bleustein-Blanchet, aussi. Une enquête est ouverte pour dégradation. C'est ce qu'indique le parquet de Nanterre ce matin. Enquête confiée à la Sûreté 92 de la préfecture de Paris, qui promet de gros moyens, nous dit Emmanuel Leclerc, de gros moyens pour tracer toutes les allées-venues dans et autour du cimetière ces dernières heures.
Merci Béatrice Duguay pour ces informations. Les engagements de Robert Badinter suscitent, et on le voit encore, du rejet en 2025, d'où l'importance de sa panthéonisation. La cérémonie débute à 18h30. Le cercueil portant son nom remontera la rue Soufflot à Paris, sous les yeux du public, avec à l'intérieur des objets qui lui étaient chers, comme sa robe d'avocat ou encore un exemplaire du recueil « Chose vue » de Victor Hugo. Badinter, l'homme qui a eu la peau de la guillotine, et précisément le musée Mucem de Marseille, donne à voir depuis ce matin une guillotine pour symboliser l'abolition de la peine de mort. Mathilde Vinceneuil y a suivi les visiteurs.
La guillotine trône au milieu de l'une des pièces de l'exposition permanente du Mucem. Sa lame, c'est 4 mètres de haut et Daniel essuie des larmes sur ses joues.
C'est dur à voir, hein. C'est dur. Hein. Ça vous prend le cœur. Hein. Je m'imagine là-dessous, moi. C'est terrible de voir. C'est barbare. Hein. Je fais partie de ceux qui sont contre la peine de mort. J'ai 78 ans, je me rappelle. Hein. Son abolition hein, par Badinter.
Beaucoup se souviennent, d'autres n'étaient pas nés comme Imane et Agathe, élèves de terminale.
On se dit fou. Ça a vraiment existé finalement, c'est pas que dans les livres et dans les histoires qu'on raconte.
Tu te rends pas compte que c'était il y a à peine 40 ans en fait que c'était encore possible d'être guillotiné. Mais après, cette technique, elle est traumatisante, mais enfin, il y en a encore plein dans le monde qui ont la peine de mort. C'est triste de se dire que ça existe encore.
Il faut montrer cette guillotine, un devoir de mémoire, commente Hélène, avocate.
Beaucoup d'émotions à voir ça, en espérant qu'elle ne resservira évidemment jamais.
Et si pour beaucoup de visiteurs, il est impensable de revenir sur la peine de mort, ce n'est pas l'avis de cette dame qui refuse de donner son prénom et qui prend des photos de la guillotine.
C'est vrai que la remettre en service, ça n'aurait pas un luxe.
Cette visiteuse cite le cas de Patrick Henry qu'elle aurait aimé voir mourir, lui qui a échappé à la peine capitale défendue par Badinter. Un demi-siècle plus tard, l'avocat a toujours une partie de l'opinion contre lui.
Mathilde Vinceneux à Marseille pour Inter. Ne manquez pas à partir de 13h30 notre visite en avant-première de cette exposition donc au Panthéon. Robert Badinter au cœur, la vie de l'ancien ministre de la Justice qui pourrait servir de fil rouge à ce 13-14. On se souvient de son indignation et le mot est faible après les attaques terroristes du 7 octobre. Et bien après 2 ans et 2 jours de guerre, ce matin, des scènes de joie de part et d'autre de la frontière dans la bande de Gaza, mais aussi en Israël, après l'annonce donc de ce cessez-le-feu dans les prochaines heures. Joie chez les Palestiniens de l'enclave, on va y venir, mais aussi chez les familles d'otages de voir les derniers libérés. Olivier Jaoui est le cofondateur de l'association de victimes Vie Brisée 7 octobre qui rassemble les victimes françaises. Il dit son espoir au téléphone de Laurent Kramer.
C'est évidemment un soulagement, et d'ailleurs on le voit auprès déjà des familles d'otages. Enfin, les derniers otages vivants et également, hélas, les cadavres, les corps vont être rapatriés. Et tout ça, évidemment, ça fait 2 ans que ça nous plombe. L'espoir a toujours été là. Et puis, la question, c'est dans quel état vont-ils revenir, hein ? On a vu ces vidéos horribles diffusées au mois d'août de 2 otages complètement décharnés. Le temps, la longueur, l'incertitude. Et puis, dans quel état vont-ils rentrer ? Pour les familles, les noms des otages vivants, tant qu'ils ne sont pas confirmés par le terroriste du Hamas et que surtout les familles n'ont pas vu et récupéré les otages vivants, il y a une incertitude permanente.
Le témoignage d'Olivier Jaoui au téléphone de Laurent Kramer. Quand dans la bande de Gaza, les Palestiniens, affamés, déplacés, bombardés depuis des mois par l'armée israélienne dans sa traque du Hamas, entrevoient la paix. Témoignage de Gazaoui ce matin.
Pour le moment, il y a toujours des bombardements autour de moi. Donc les gens, ils ont beaucoup d'espoir que cette trêve, cet accord va arrêter l'agression d'une part, mais un accueil avec beaucoup de prudence. Après 2 ans de cette agression horrible, après cette famine, après cette pénurie de tout, médicaments, de l'eau potable notamment, de la nourriture notamment dans la ville de Gaza. Donc on est dans l'attente dans la ville de Gaza. Le plus important, c'est l'arrêt total. Après, pour l'aide humanitaire, pour les camions et l'ouverture de passage, ça c'est une deuxième étape pour nous. Et surtout le retour de presque 1 million de Palestiniens de la ville de Gaza qui vont quitter le nord vers le sud. Et après, on va voir est-ce qu'il y aura un respect mutuel de cet accord signé en Égypte aujourd'hui.
Le témoignage de Ziad Medouk, professeur de français à Gaza, au téléphone de Camille Magnard. Avant de retourner avec les familles d'otages et avec les Palestiniens, cette fois en Cisjordanie, pour d'autres réactions, je voudrais qu'on entre dans le détail de cet accord avec Thibault Lefebvre à Jérusalem et avec Étienne Monin ici même. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Thibault, l'accord entre les représentants du Hamas et ceux du gouvernement israélien doit être signé dans les prochaines heures. En Égypte, il a été signé ?
Oui, accord signé, oui, hein, 10 heures après sa validation formelle, à midi donc, heure locale, et accueilli, vous vous en doutez, avec beaucoup d'enthousiasme à Gaza.
La trêve a commencé, on entend des coups de feu, des tirs.
Avec donc ces coups de feu tirés en l'air, enregistrés par notre journaliste Adair Elbala, c'est au centre de l'enclave, il s'appelle Nabil Diab. Alors ce n'est pas le plan Trump que célèbrent les Palestiniens de l'enclave, mais son premier volet qui concerne seulement l'échange d'otages et de prisonniers. 20 Israéliens présumés vivants et quelques dépouilles parmi les 28 morts contre 2000 détenus palestiniens, dont 250 qui purgent des peines de prison à vie. L'échéance a été fixée à lundi par Donald Trump, mais elle pourrait intervenir plus tôt.
A priori, Thibault, cet accord est solide. Rien n'indique à ce stade que le processus puisse dérailler dans les prochaines heures.
Alors Jérôme, toujours rester prudent au Proche-Orient. Mais non, pour le moment, le calendrier est assez clair. 16h, heure française, réunion du cabinet de sécurité israélien, suivi du cabinet de ministres élargi. Simple formalité a priori, puisque l'extrême droite défavorable à l'accord n'a pas de capacité de blocage. La suite, c'est le retrait des troupes israéliennes sur une ligne déterminée par Donald Trump il y a 4 jours. Ligne qui encercle à l'intérieur de Gaza plus de 2 millions de Palestiniens. Ce matin, l'armée de l'État hébreu occupe les 3/4 du territoire. Demain, si tout va bien, elle maintiendra ses soldats sur un peu plus de 50%.
Est-ce que ça veut dire, Thibault, que le sort des Gazaouis va s'améliorer rapidement ?
Alors ça va un petit peu mieux à Gaza, ou disons moins mal, depuis que l'ONU a annoncé fin août que l'enclave était en proie officiellement à la famine. Les Américains et les Israéliens ont sans doute pris conscience à ce moment-là du drame qui se jouait, et ils ont permis à environ 300 camions par jour de rentrer, ce qui reste évidemment insuffisant. La conséquence, c'est qu'il y a plus de nourriture sur le marché, même si les denrées de base restent très chères. En revanche, les plus vulnérables ne s'en sortent pas, et notamment les enfants qui souffrent de malnutrition, avec les derniers déplacements forcés du nord au sud de Gaza et les destructions des centres de santé. Le suivi médical est très compliqué et il y a encore aujourd'hui, ce matin, Jérôme, dans l'enclave, des bébés entre la vie et la mort.
Thibault Lefebvre, en direct de Jérusalem. Étienne Monin, vous avez été pendant plusieurs années notre correspondant à Jérusalem. Il faut dire merci Trump. Aujourd'hui, tout ça, c'est grâce à lui.
Oui, et à un alignement aussi. Alors d'abord, c'est vrai que Donald Trump est passé de la solution militaire à la solution négociée. Et ça, sans doute parce que le premier ministre israélien, de son côté, est allé trop loin. Le tournant, c'est la frappe à Doha, au Qatar, des Israéliens. Les intérêts militaires et financiers du président Trump ont été ébranlés. Il est alors rentré dans la logique de pression maximale sur Benjamin Netanyahou, qui s'est éloigné, contraint et forcé de la position maximaliste de son extrême droite. En parallèle, les États du Golfe et de la Turquie ont mis la pression sur le Hamas, et la France, avec ses partenaires, a renforcé l'isolement d'Israël avec la reconnaissance de la Palestine à la tribune de l'ONU. Enfin, pour assurer son succès, le président Trump a tout misé sur le cessez-le-feu et sur la libération des otages. Il a remis à plus tard les questions clés du désarmement, de la gouvernance de l'État palestinien, bref, de la fin à proprement parler de la guerre.
Ça, ce que vous esquissez, Étienne, c'est la phase 2. Est-ce qu'elle va être conforme à ce qu'imaginent les Américains, notamment avec ce conseil de paix qui serait dirigé par Donald Trump ?
Ça n'est pas sûr. Les Européens, en tout cas, et les États du Golfe ont du mal à digérer la vision dirigiste du plan Trump. La gouvernance ne respecte pas suffisamment la souveraineté et l'autonomie des Palestiniens. La solution à deux États n'est pas suffisamment clairement affirmée. La transition vers l'autorité palestinienne mérite d'être précisée. La diplomatie française estime qu'il y a encore du travail pour l'acceptation politique de ce plan de paix. Une rencontre a donc lieu aujourd'hui à Paris avec les ministres des Affaires étrangères de l'Europe et des pays arabes. L'idée, c'est de palestiniser un peu plus ce plan, et pourquoi pas de faire une offre de service du côté européen, notamment sur la force intérimaire à Gaza.
Merci Étienne Monin. Évidemment, ces développements sont suivis minute par minute en Israël, où l'on attend les otages. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour à vous.
Vous êtes en direct de Tel Aviv. Comment réagissent les Israéliens avec lesquels vous vous êtes entretenu ?
Bien écoutez, je suis sur la place des otages, hein. Vous savez, cette place où tous les soutiens et les familles d'otages se sont rassemblés régulièrement. Elle avait été un peu désertée ces derniers jours, mais elle a retrouvé l'affluence des grands moments, plus de légèreté, beaucoup de sourires aussi sur les visages, dont celui de Tova Omer.
J'ai appris à 2h du matin, j'étais très émue, j'ai pleuré pendant plus que 3h. Il a fallu beaucoup de temps pour me calmer. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. On espère que ce sera la fin. Mais allons savoir comment le Hamas va cesser le feu.
Voilà, il y a ces doutes donc, hein, mais l'heure est tout de même à l'espoir. La signature des accords à Sharm el-Sheikh augure du début d'une nouvelle ère. C'est ce qu'en tout cas ce que l'on veut croire, place des otages à Tel Aviv. Et puis vous en parliez, il y a quelqu'un qui fait l'unanimité ici, c'est Donald Trump, véritable héros. Certaines familles d'otages sont venues avant de repartir. J'ai pu rencontrer Rotem Cooper, son père, 86 ans, a été enlevé dans le kibboutz de Niro, enlevé puis exécuté par le Hamas. Son fils aujourd'hui tremble, mais c'est de colère, nous dit-il.
Vous savez, ça bouillonne en vous. Les plus âgés, les hommes de plus de 50 ans, les femmes et les enfants. Pourquoi Israël n'a pas réussi à les sortir tant qu'ils étaient en vie? Ce sont ces sentiments qui nous habitent. J'ai un sentiment d'échec. D'évidence, notre gouvernement, notre premier ministre sont responsables. On va y venir, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je suis plus optimiste qu'hier. Et ce que je ressens, ce n'est pas du soulagement. Nous ne les avons pas encore revus, mais le sentiment qu'une mission a été accomplie.
Oui, cette mission, c'est la campagne pour le retour des otages qui a donc porté ses fruits, espère-t-on.
Marie-Pierre Véro, à Tel Aviv, effectivement, vous vous trouvez avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Parmi les Palestiniens qui seront libérés dans le cadre de cet accord, il y a des Palestiniens de Gaza, mais aussi de Cisjordanie. L'espoir est donc grand à Ramallah, où se trouve notre journaliste, Lucas Lazo.
Je suis très 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 heureux. Ce sont les yeux rivés sur son téléphone à l'affût des moindres nouvelles qui filtrent de Gaza qu'Amoudé, soulagé, ouvre sa boulangerie ce matin.
La fin de la guerre, c'est la fin des effusions de sang et des pertes humaines. Nous souhaitons maintenant que Gaza puisse se reconstruire. Ils auront besoin du soutien des pays arabes.
Un soutien de la communauté internationale salué par ce professeur d'anglais en route vers son travail.
Merci Trump. Merci aux pays arabes et à la Turquie qui ont contribué à la conclusion de cet accord. Il était temps que ça arrive. Dieu merci. Ils ont souffert pendant 2 années entières.
La pression de la Turquie sur le Hamas et des États-Unis sur Israël aurait permis d'accélérer les négociations pour aboutir à cet accord, mais la méfiance est de mise pour Hamid, attablé à un café.
L'expérience d'Israël dans ce domaine est complètement folle, vous savez. Je veux dire, à chaque fois, ils ont leur propre interprétation de l'initiative. Si vous regardez ce qui s'est passé en Syrie et au Liban, vous allez voir ce qui va se passer à Gaza.
Ici, en Cisjordanie, les habitants ont en mémoire le précédent cessez-le-feu brutalement interrompu en mars dernier par la reprise des bombardements de l'armée israélienne sur l'enclave. À Ramallah, Lucas Lazo, France Inter.
Et nous serons dans quelques minutes en ligne avec Ofer Bronstein, président du Forum international pour la paix, un homme qui se bat pour cette paix depuis des années, qui nous dira comment il réagit à l'annonce de ce cessez-le-feu. 13h16 sur Inter.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
La France aura-t-elle bientôt un gouvernement et un budget? Toujours aucune réponse à cette question. Hier soir, devant 7 millions de téléspectateurs, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a dit avoir tout essayé pour trouver un compromis et acter la fin de sa mission. Quelques minutes plus tard, l'Élysée a annoncé la nomination d'un nouveau Premier ministre d'ici 48 heures, il en reste un petit peu moins à l'heure où l'on se parle. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Mais depuis hier soir, plus de son, plus d'images et comme l'impression que depuis lundi, on n'a pas avancé du tout.
Oui, comme un surplace qui n'en finit pas. Un Premier ministre de gauche, demain, les appels se multiplient encore ce matin chez les socialistes, même si la porte n'est peut-être plus aussi ouverte qu'hier. Une équipe de l'ancien socle commun reconduite. L'hypothèse est très probable, mais avec qui autour de la table? Les Républicains posent leurs conditions, tout comme chez Horizon. À Emmanuel Macron, en effet, un an d'arbitrer avec un sursis ce soir et la panthéonisation de Robert Badinter. Un moment bienvenu de concorde nationale.
Alors on parle beaucoup depuis le début de la semaine des prises de position de chacune des familles politiques. Il est peut-être plus intéressant de descendre d'un niveau et de regarder ça, Jérôme, circonscription par circonscription.
Oui, les yeux rivés sur cette carte électorale, ce qui permet au passage de mieux comprendre les sous-titres. Un exemple, ce matin, la ministre démissionnaire de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher a appelé à essayer la gauche comme alliée d'un gouvernement à venir. Message subliminal quand on sait que l'an dernier, elle avait été élue députée face au RN grâce au désistement de la gauche. Mmh. La balance est simple, donner un gage à gauche quand ça peut être utile électoralement ou au contraire défendre les fondamentaux de son parti quand on est dans une circonscription un peu plus confortable. C'est le cas par exemple du Renaissance Sylvain Maillard à Paris qui ne veut aucun socialiste dans le gouvernement. Mais au final, tous le savent, pour le bloc central, les Républicains et même une partie de la gauche, comme dans les Landes par exemple où le fief de Boris Vallot est menacé, eh bien la dissolution devient leur épée de Damoclès.
Merci Jérôme Val pour ce décryptage. Il a retrouvé le sol français ce matin. Le franco-allemand Lennart Monterlo, 19 ans, détenu en Iran depuis le mois de juin, est rentré en France. Il traversait l'Iran à vélo en solitaire lorsqu'il avait été arrêté, puis accusé d'espionnage. C'est un nouveau moment délicat pour Cédric Jubilard à la cour d'assises du Tarn, accusé du meurtre de sa femme Delphine, c'était en 2020. Car aujourd'hui, la cour entend ses ex-compagnes. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes en direct d'Albi et ses compagnes en dressent un portrait peu flatteur.
Oui, on appelle ça l'hybristophilie, s'amuse un avocat. Le syndrome de Bonnie and Clyde, les compagnes de criminels. Et Séverine le reconnaît à la barre. Elle s'est mise en couple avec Cédric Jubilard à peine 4 mois après la disparition de Delphine. Pour en savoir un peu plus, dit-elle, pour mener l'enquête. Séverine dit d'abord qu'elle ne le croit pas coupable, mais au fil des questions, elle finit par admettre qu'il lui avait avoué vouloir récupérer l'assurance vie de Delphine et même raconter comment on peut dissimuler un corps en le mettant dans un incinérateur ou en le donnant à manger au cochon. À la fin de sa déposition, Séverine va admettre qu'elle se pose quand même un peu la question de la culpabilité de son ex-compagnon. Et puis, au chapitre des témoins troubles, apparaît soudain à la barre un policier, conseiller régional Reconquête, ancien camarade de jeu de Jubilard sur Game of Thrones. « Je ne suis pas là pour vous dire qu'il est innocent, mais qu'il n'est potentiellement pas coupable », indique le tribun. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'intelligence, grâce à l'intelligence artificielle, il a découvert que quand on ne retrouve pas un corps au bout de 4 ans, on doit s'interroger sur le bien fondé des poursuites. Et le zémouriste d'invoquer Voltaire, Éric Dupond-Moretti et la Convention européenne des droits de l'homme. C'est l'avocat général qui aura le mot de la fin pour cette séquence surréaliste. On n'a pas besoin de vous pour rendre la justice.
Jean-Philippe Degnaud en direct d'Albi avec les moyens techniques de Christophe Papon. Au procès en appel des viols de Mazan à Nîmes, l'accusation a requis ce matin 12 ans de réclusion criminelle contre le seul des condamnés d'Avignon à avoir fait appel en première instance. Il avait été condamné à 9 ans de prison. Le verdict est attendu dans la journée. C'est une étude qui met à mal des années de communication dans l'industrie des transports. Non, les biocarburants ne sont pas une solution miracle pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. C'est même pire. Ils sont peut-être encore plus néfastes que les carburants traditionnels. C'est ce que nous dit un rapport de l'ONG Transport et Environnement qui est publié aujourd'hui. Bonjour Damien Mestre.
Bonjour à tous.
Principale conclusion de ce rapport à l'échelle mondiale, ces biocarburants émettent 16% de plus de CO2 que les carburants issus des énergies fossiles.
Oui, et pour comprendre, il faut déjà rappeler comment sont fabriqués aujourd'hui ces biocarburants. Ils sont en grande majorité issus de la culture du maïs, du colza ou bien du soja, des cultures qui nécessitent énormément de terres agricoles, quitte à détruire pour cela des forêts entières. C'est le cas au Brésil ou en Indonésie, deux pays qui sont justement des poids lourds dans la production de ces carburants. Une déforestation qui génère énormément de gaz à effet de serre, c'est ce qui explique donc ce bilan carbone désastreux. Ça, c'est pour le premier point, parce qu'en plus, les biocarburants sont extrêmement gourmands en eau, ajoute Bastien Gebel de l'organisation à l'origine du rapport.
C'est en moyenne 3000 litres d'eau qui sont nécessaires pour conduire 100 km avec une voiture qui sont alimentées au biocarburant. Là où c'est 20 litres d'eau avec de l'électricité produite par des panneaux solaires pour faire rouler une voiture électrique.
À l'ONG qui appelle donc à reconsidérer d'urgence l'usage de ces biocarburants, surtout à quelques jours d'une COP30 qui aura lieu précisément au Brésil. Pays, on l'a dit, très lié aux intérêts de cette industrie.
Merci Damien Mestre. C'est une information que l'on vous donnait au tout début de ce 13-14, puisque le comité Nobel dévoile à chaque fois le nom du prix Nobel de littérature à 13h pétante. C'est le romancier hongrois László Krasznahorkai qui a été désigné lauréat de ce prix Nobel il y a donc quelques minutes. À 71 ans, on vous retrouve Ilana Moriousef. Que pouvez-vous nous dire de cet homme et de son œuvre ?
Alors, son nom revenait depuis plusieurs années dans la liste des nobélisables et il a obtenu il y a très peu de temps le prix Booker International qui est un prix peut-être pas précurseur mais qui souvent en tout cas annonce un futur lauréat du prix Nobel de littérature. L'Académie Nobel, alors dont son langage un peu alambiqué, a expliqué son choix en disant que c'était une œuvre fascinante et visionnaire qui, au milieu d'une terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l'art. De façon plus simple, on dira que Krasznahorkai est un écrivain épique, un peu dans la tradition de l'Europe centrale qui s'étend, on va dire, de Kafka à Thomas Bernhard. Et c'est ce que nous a expliqué son éditrice française, Charlotte Groult, des éditions Cambourakis.
C'est beaucoup une œuvre sur l'absurde, la répétition, la chute, la folie à la fois celle des autres, mais aussi enfin, de toute une société. Ces grands, grands romans, en fait, c'est comme des rubans de Möbius. Ils nous entraînent. C'est une œuvre absolument époustouflante et nous tenons absolument à signaler le travail acharné de sa traductrice, Joëlle Dufeuilly, qui le traduit admirablement depuis le début et sans qui la carrière littéraire en France ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui, bien sûr.
Alors parmi les titres, disons les plus connus en France, on peut citer Le Tango de Satan, La Mélancolie de la Résistance, et l'un des tout derniers, Le Baron Weinheim est des retours.
Merci Lana Moriusef, Laszlo Krasznahorkai, prix Nobel de littérature 2025, on verra demain qui est le lauréat du prix Nobel de la paix. On reparlera peut-être de cet accord de cessez-le-feu. Donald Trump, le président américain, est en lice pour ce prix Nobel de la paix, ce qui nous ramène à l'une des informations de la journée. Cet accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, et on a enfin réussi à vous joindre. Bonjour Ofer Bronstein.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Président du Forum international pour la paix, les négociations israéliens-palestiniens, vous connaissez, vous avez travaillé avec Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien. C'était en 1993, au moment des accords d'Oslo, et vous êtes aussi chargé de mission par Emmanuel Macron pour le Proche-Orient. Ofer Bronstein, est-ce que vous arrivez à être heureux aujourd'hui ?
Je suis très soulagé. J'ai vu les liasses de joie à Tel Aviv, j'ai vu les liasses de joie à Gaza, c'est un grand réconfort. Ce que les deux populations ont souffert est absolument abominable. Mon cœur est avec les parents des familles des otages qui ont vraiment souffert. Mais je suis vraiment impressionné par la mobilisation depuis 2 ans, tous les jours, des dizaines de milliers d'Israéliens faisaient pression sur le gouvernement pour qu'il arrive à un accord avec le Hamas. Ils sont soulagés aujourd'hui et j'ai vu aussi des liesses de joie à Gaza. Et ils subissent encore une catastrophe humanitaire.
Il y a aussi, Ofer Bronstein, toute une partie de l'opinion publique israélienne qui vote pour l'extrême droite, qui ne veut pas de cet accord, qui dit les Palestiniens que vous allez libérer, ce sont les futurs terroristes. Ça s'est passé pour le 7 octobre.
Je crois qu'ils ont une mémoire qui est assez courte. Dans les accords d'Oslo qu'on a signés, que Yitzhak Rabin a signé avec Arafat en 1993, ça stipulait la libération d'énormément de prisonniers palestiniens. Très peu d'entre eux sont revenus sur la voie du terrorisme.
Mais quelques-uns, oui.
Quelques-uns, oui, bien entendu. Mais vous savez, il ne faut pas oublier quelque chose. La paix, la réconciliation se fait entre ennemis. Pour les Palestiniens, ces gens-là, c'est des héros de la résistance. Pour les Israéliens et pour la communauté internationale, c'est des terroristes. Je pense qu'ils seront libérés, mais les forces de renseignement Israéliens auront un œil sur eux. Et ils vont devoir, vu les plans qui sont en train d'être mis sur place, ils vont devoir, s'ils veulent exister encore politiquement, se reconvertir à la politique et laisser tomber les armes.
Ofer Bronstein, ce cessez-le-feu tel qu'il a été négocié, vous paraît-il solide ?
Je crois que oui. Je crois que la communauté internationale est déterminée. Je crois que le président américain a mis tout son pouvoir et toute sa... Et son influence et pour que ça marche.
C'est lui le faiseur de paix ?
Je crois qu'il a été, faut être honnête, il a été inspiré par la France. Je crois que la dynamique de la reconnaissance de la Palestine avec 14 autres pays, il s'est senti isolé au Conseil de sécurité permanent, puisque de 2 pays qui reconnaissaient la Palestine, ils sont devenus 4, donc il ne restait que les États-Unis. Donc, au G7 aussi, il n'y en avait aucun, maintenant il y en a 3 et bientôt 5. Donc il devenait minoritaire, et puis il a eu des conversations avec le président Macron à New York, avec les leaders des pays arabes à New York. Il a vu, et il l'a dit d'ailleurs, il a vu la population israélienne se mobiliser. 80% des Israéliens voulaient que la guerre s'arrête et voulaient libérer les otages. Donc tous ces ingrédients-là ont fait qu'il a pris le taureau par les cornes et qu'il a imposé son plan.
Vous pensez, Ofer Bronstein, que le Hamas va désarmer ?
Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Ce qui est spéculé très très clair dans le plan, c'est qu'il va avoir une force internationale qui va comprendre des pays arabes comme le Maroc, les Émirats, l'Égypte, la Jordanie, bien entendu, pour stabiliser la situation au niveau sécuritaire. S'ils se désarment pas, les Israéliens ne vont pas quitter la bande de Gaza. Donc c'est les Palestiniens encore une fois qui vont payer le prix d'un non-respect d'accord. Il est clair aujourd'hui, même pour les amis du Hamas, entre guillemets, comme la Turquie ou comme le Qatar ou comme l'Algérie, que le Hamas est fini. En tant que force terroriste, il est mort. S'il va devenir se convertir en une force politique qui reconnaît les accords signés, qui veut aller de l'avant pour le bien-être de son peuple, peut-être, mais comme organisation, le Hamas est foutu.
Merci Ofer Bronstein, merci d'avoir été en direct avec nous dans ce 13-14, président du Forum international pour la paix, pour cette première réaction après l'annonce donc de cet accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas. 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac, puis nous retournerons au Panthéon. Visite guidée dans la crypte à quelques heures seulement de l'entrée de Robert Badinter. Une exposition lui est consacrée. Nous la parcourons avec archives et témoignages. 13h45, notre feuilleton au marché aux poissons de Fécamp, où l'on forme des jeunes, c'est la relève. Et puis juste avant 14h, bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Jérôme.
Une comédienne avec vous dans C'est une chanson.
Véronique Vella de la Comédie Française. On peut la voir actuellement sur la scène du Théâtre 14 à Paris et avec elle, nous écouterons un trésor de la musique brésilienne, Modinha, par la chanteuse Elis Regina.
A tout à l'heure.
France Inter, 20h10, Eva Bester.
Ce jeudi, avec l'écrivain et poète Antoine Waters, nous parlerons de déterminisme, de hantise et de vie monacale à travers son roman Haute Folie.
La 20e heure, tous les jours à 20h10 sur France Inter.
Frédéric Lenoir.
Pourquoi Sapiens, l'être humain, est-il aussi un homo spiritus ? Pourquoi sommes-nous le seul animal qui cherche à donner du sens à sa vie et qui croit en des forces invisibles ? Pour vous, j'ai remonté le temps pour comprendre comment sont nés les grands courants spirituels et religieux de l'humanité.
L'Odyssée du Sacré, de Frédéric Lenoir, enfin au livre de poche.
Savez-vous qu'il est possible de faire un legs au Secours Populaire Français ?
Oui, et c'est pour moi la plus belle manière d'agir pour un monde plus juste et plus solidaire. Grâce à mon legs au Secours Populaire, je suis sereine, je sais que le peu que je possède servira à une cause et des valeurs qui me sont très chères.
Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Une journée nuageuse mais assez douce.
Oui, sur la plupart des régions, nuages et petites éclaircies alternent. Alors le soleil brille franchement sur les côtes au nord de la Seine, mais aussi sur le sud de la Vendée, le nord de la Nouvelle-Aquitaine et les Alpes. En revanche, ça reste assez gris des Pyrénées vers le Massif central, le Lyonnais, la Franche-Comté, avec quelques gouttes possibles. Et puis en Méditerranée, les nuages altitude sont nombreux. Le soleil se montre plus du côté de la Provence. Quelques averses sont possibles sur la Corse de temps en temps. Il y a du Mistral, de la Tramontane, jusqu'à 50 km à l'heure. Les températures sont assez douce malgré une petite baisse sur les régions du sud. 16 à 20 degrés attendus sur la moitié nord jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'à 22 sur le sud-ouest, 22 à 25 près de la Méditerranée. Et puis demain, le soleil va reprendre le dessus après les grisailles matinales, mais ça restera quand même assez gris de la Manche au nord de la Seine.
Élodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Avant la cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter, ce soir à partir de 18h30, et vous la suivrez en direct sur France Inter aux côtés de Fabienne Synthèse, je vous propose dans ce 13-14 une plongée en avant-première et inédite dans la vie de l'homme qui a aboli la peine de mort en France. Au Panthéon, dans la crypte, ça s'appelle La justice au cœur. C'est l'exposition qui encadre cette panthéonisation et on va la visiter avec Eric Fotorino qui est avec nous chaque mercredi de Légende du 1 Hebdo qui en est le commissaire, mais aussi avec Rachel Badinter. 32 ans, c'est la petite nièce de Robert Badinter. Bonjour Rachel.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre ici au Panthéon. Bonjour Eric Fotorino.
Bonjour Jérôme.
Habitué de ce 13-14, le 1 Hebdo, Légende, vous êtes le commissaire de l'exposition qui va entourer la panthéonisation de Robert Badinter. Rachel Badinter, merci d'être avec nous. Votre grand-père, Claude, était le grand frère de Robert Badinter. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici, de voir la photo de votre grand-oncle? Là, on est en haut de la rue Soufflot, on va rentrer dans le Panthéon dans une minute.
Bah, c'est avec beaucoup d'émotion et toujours de la surprise de voir autant de choses déployées pour lui, mais ça fait très plaisir.
Vous vous souvenez la dernière fois que vous l'avez vu?
Oui, c'était à l'anniversaire des 90 ans de ma grand-mère. Et cette dernière est décédée cette semaine. D'ailleurs, on l'enterre vendredi, donc ça se suit. Et c'était un souvenir qui était très émouvant parce que ce dernier, lui, était très joyeux. Il lui disait « On est arrivé aux 90, on l'a fait, Annette !» Et cette dernière a dit « C'est beaucoup trop long. Voilà, je préférerais déjà ne plus être là. » mais elle lui a survécu.
C'est une semaine très éprouvante, très particulière pour votre,
très particulière.
Pour votre famille. La justice française ne sera plus une justice qui tue. C'est ce qu'on peut lire sur la partie bleue du drapeau bleu-blanc-rouge, oui, qui est sur la façade de ce panthéon. Le portrait de Robert Badinter au milieu, fond blanc, et puis la peine de mort est abolie sur fond rouge. C'est un peu aussi le programme de l'exposition qui entoure cette panthéonisation. On va rentrer à l'intérieur tous ensemble. Voilà dans la crypte, on a traversé le panthéon, on est descendu donc dans cet espace souterrain, à la découverte de cette exposition. Une photo de Robert Badinter nous accueille, et puis il y a un premier espace, Rachel Badinter, Eric Fotorino, qui est consacré à la famille, aux origines. Rachel, est-ce que vous êtes interrogée sur l'origine de votre nom ?
Oui, on m'a toujours dit qu'on venait de Bessarabie, qu'on était des juifs ashkénazes, mais qu'avant tout, on était français, 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 et français, avant d'être quoi que ce soit d'autre. Voilà.
Ça, c'était le discours dans la famille dans laquelle vous avez grandi, en tous les cas.
Toujours, toujours.
Eric Fotorino, juste derrière moi, il y a le portrait d'une personne qui est très importante dans la vie de Robert Badinter.
Oui, c'est sa grand-mère maternelle, c'est Idis, à laquelle il a consacré un livre dans les dernières années de sa vie. En fait, cette femme était la femme du réconfort. Ses parents travaillaient beaucoup. Et les enfants, Claude et Robert, étaient entre les mains d'Idis, qui parlait à la fois un mélange de yiddish, de français, de russe. Elle était les origines incarnées par la voix et par ce qu'elle représentait comme grand-mère maternelle.
Les parents de Robert Badinter ont fui la Russie tsariste. Ils sont originaires d'une région qui a en tout cas disparu des cartes en tant que pays. C'est la Bessarabie. Qu'est-ce que c'est que la Bessarabie ?
La Bessarabie, aujourd'hui, c'est en gros la Moldavie. Et donc, c'était une des provinces orientales de l'Empire tsariste. Et c'était un lieu où les pogroms étaient fréquents, notamment la Kishinev, qui était la capitale. Et donc, les parents...
Les pogroms sont des massacres de juifs.
Et il y en a eu de très importants au début du 20e siècle, 1903-1905. Et les parents de Robert Badinter ne se sont pas connus là. Le père de Robert Badinter est parti étudier à Moscou. Il a même combattu dans l'armée du Tsar. Et après la révolution d'octobre, il a considéré qu'il fallait partir. Et pour lui, partir, ça voulait dire aller en France. Et comme disait Rachel, s'intégrer, devenir vraiment des Français, plus Français que les Français, d'une certaine manière, par l'éducation, l'apprentissage de la langue et du savoir.
L'antisémitisme a poursuivi finalement la famille depuis le début du XXe siècle. C'est une histoire qu'on vous a transmise aussi, Rachel Badinter ?
Évidemment, oui. On savait surtout ce qui s'est passé après la guerre, quand Robert et Claude attendaient...
Claude, votre grand-père.
Exactement. Le retour de leur père, qui n'est jamais revenu, et qui sont restés très longtemps à aller au Lutetia, en espérant soit avoir son nom, soit le retrouver vivant.
Mais justement, puisqu'on parle de son père, Eric Fotorino, il y a un portrait au bout de cette galerie d'un homme qui est ici, au Panthéon, c'est Émile Zola, et qui compte aussi beaucoup dans le fait que la famille Badinter s'installe en France. Il y a l'éclat des écrivains, de la littérature, de la République française.
Exactement. Il y a à la fois, en effet, les grands textes, la littérature. Le père de Robert Badinter, qui s'appelle Samuel en Bessarabie, qui va devenir Simon. Lui dit, quand il arrive à Paris, il connaît déjà les rues de Paris, parce qu'il a lu les romans de Balzac, de Dumas, de Zola. Et Zola, pour lui, c'est très important, parce que c'est un homme qui a défendu, selon sa propre expression, un petit capitaine juif. Autrement dit, c'est un pays, la France, où on peut aller au secours des juifs. Et évidemment, quand la guerre va arriver, ce jugement sera forcément un peu altéré, mais il voudra toujours considérer que la France, la République française, c'est un absolu.
Éric, Rachel, vous êtes arrêté devant ce tableau. Vous le connaissez, ce tableau, Rachel Badinter ?
Oui, tout à fait. Il était chez ma grand-mère, dans la chambre des enfants, et je crois même qu'il était à un moment chez moi, quand j'étais petite, une reproduction. Plus petite, mais il était là.
Mais oui, en fait, Robert Badinter le conservait, l'original, dans son bureau. Il n'avait pas une très grande valeur en termes de peinture, mais c'était son père qui l'avait acheté. Donc c'est un des seuls objets, sinon le seul, qu'il a conservé de son père.
Ce sont des rabbins qui sont représentés sur cette peinture.
Oui. Et qui sont, comme d'habitude, en train de discuter d'un passage de la Torah et d'essayer de comprendre quel était véritablement le commandement.
On est dans le dialogue, dans la réflexion, on est dans l'interrogation.
Ce qui est intéressant, c'est que Robert Badinter était un juif laïque, c'est-à-dire qu'il ne pratiquait que le jour du Kippour. C'était ce qu'on appelle les juifs du Kippour. Mais d'abord, c'était la République. Mais il n'oubliait pas qu'il était juif.
On change de travée ?
On change de travée. Et on arrive évidemment dans le grand combat de la vie de Robert Badinter. De ce côté, on a l'avocat, et de l'autre côté, le ministre qui va faire voter la loi de l'abolition, qu'il a lui-même écrite.
Avant de devenir ministre de la Justice, avant de prononcer ce discours qui est entré dans l'histoire, Robert Badinter, l'avocat, va plaider en 1980 à Toulouse. C'est l'affaire Norbert Garceau. Norbert Garceau était accusé du viol et du meurtre d'une jeune collègue de travail, Michel Ossiou. Il avait été condamné à mort. Le verdict avait été cassé et il y a un second procès qui se tient à Toulouse. Robert Badinter plaide avec maître Georges Catala. Norbert Garceau ne sera pas guillotiné. Jean-Philippe Degnaud a retrouvé maître Georges Catala et il nous raconte les secondes qui suivent ce verdict.
Mon souvenir incandescent, c'est que Badinter et moi avons eu peur. Et derrière les portes de la cour d'assises, il y avait une foule hurlante qui nous attendait. Et il a fallu sortir par la souricière, aller chercher la voiture en catimini et s'échapper comme on était des voleurs alors qu'on venait d'obtenir quelque chose qui était utile pour l'humanité. J'ai vu cet homme trembler comme un sarment de vigne quand il est arrivé à la plaidoirie. Et alors il a déroulé le discours magnifique qu'il a fait à l'Assemblée nationale, mais il n'empêche qu'il fallait boxer avec le jury, que Badinter mouille sa chemise pour qu'il obtienne ce qu'il a obtenu, c'est-à-dire circonstances atténuantes. L'homme, Robert Badinter, était très fatigué, très las. Il m'avait dit, à titre confidentiel, que si cette fois-ci il échouait, il n'était pas impossible qu'il abandonne.
Ce jour-là, dans la salle à Toulouse, il y a Elisabeth Badinter, il y a aussi un jeune chanteur qui s'appelle Julien Clerc, qui a dans ses cartons une chanson écrite par Jean-Loup Dabadie qui s'appelle « L'assassin assassiné ». Et puis les deux hommes, Julien Clerc et Robert Badinter, vont rentrer en train à Paris et Julien Clerc sera convaincu de chanter enfin cette chanson.
Le matin même, à la santé, un homme avait été exécuté, et nous étions si tranquilles.
On en arrive à ce 9 octobre 1981. Je voudrais qu'on écoute ce discours historique et qu'on en parle ensuite ensemble.
La France est grande parce que elle a été la première en Europe à abolir la torture. Et il y avait à cet instant, dans le pays, des esprits précautionneux qui disait que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux citoyens. La France a été parmi les premiers à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité.
Vous l'avez écouté, Rachel Badinter, à plusieurs reprises, ce discours, depuis peut-être plus jeune. Est-ce que vous en avez compris le sens et la portée, peut-être en grandissant ?
Quand j'étais petite, on ne nous l'a pas montré vraiment. On voyait des extraits à la télé lors des anniversaires. Mais après, oui, je l'ai écouté plusieurs fois sur YouTube. Je l'ai revu dernièrement sur TikTok. La nouvelle génération a l'air d'être...
Sur TikTok ?
Oui. Alors moi, je ne suis pas sur TikTok de façon en mode Badinter. Mais donc, je commande toujours un petit message. Voilà, en mode, évidemment, on est contre la peine de mort ici.
Il y a évidemment la puissance des mots. C'est un avocat, Robert Badinter. Oui. Il y a quand même cette voix, Éric Sutorino. Alors, il y a cette présence.
C'est vrai, Jérôme, vous avez raison. Et alors, c'était un homme qui prenait les jurés à la gorge, qui les prenait par le regard, un par un, en disant « Si vous condamnez à mort, nous irons ensemble couper un homme en deux. » Et donc, des phrases comme ça, évidemment, il disait toujours « C'est pas grave de perdre un argument, il faut toujours garder le regard de celui qui est en face de moi, parce que dans les procès de peine de mort, la mort s'installe, il y a une banquise qui s'installe, qui est la mort qui a été donnée, mais la mort qui pourrait encore revenir. »
Cette histoire, elle a été racontée par Robert Badinter lui-même, dans des livres, dans de nombreuses fictions. Aussi, on a appelé cette semaine l'acteur et comédien Charles Berling, qui a incarné en 2009 dans un film intitulé L'Abolition, qui a porté ce rôle de Robert Badinter. Ils ont beaucoup échangé, tous deux, pour préparer ce rôle, pour préparer ce moment. Voilà ce que nous dit Charles Berling.
Il se trouve que j'avais beaucoup écouté d'abord Robert Badinter avant de l'interpréter, et ensuite on est parti dans le tournage. Et quand il est venu voir une scène, sans doute était-il content de ce qu'il voyait. En tout cas, c'est toujours très délicat hein, pour un acteur de jouer devant la personne qu'on interprète. Il est venu vers moi, il m'a dit « je vous prête ma robe ». Alors tout le monde autour de lui m'a dit « ah ben dis donc, s'il dit ça, c'était vraiment une preuve de confiance au fond ». Il faut dire que sa robe, d'ailleurs, était totalement usée, pleine de trous. C'était sa robe originelle, je dirais. Enfin, c'était la robe avec laquelle il avait beaucoup plaidé. Et donc, elle était usée de ses combats.
Avec des combats toujours à mener et extrêmement modernes. Ce qui peut nous amener...
Oui. À la dernière travée.
Exactement.
Qui est aussi la dernière partie de la vie. Suis. De la vie très active de Robert Badinter.
Alors, on a d'un côté de la travée Robert Badinter dans une prison.
À la santé.
À la santé. La prison, David Desclos la connaît bien. C'est un ancien braqueur. Il a été condamné à 10 ans. Il est devenu comédien et humoriste. Il retourne très régulièrement en prison. Et voilà quelle est, lui, son image de Robert Badinter.
Quand je suis arrivé en prison, tout le monde parlait de M. Badinter, tous les détenus en parlaient, parce que quand il arrivait au pouvoir, c'était avec M. Mitterrand, c'était le temps des grâces, il y avait eu les grâces présidentielles, il avait aboli la peine de mort. C'était des phrases qui résonnaient dans les promenades. Vous auriez connu la prison avant Badinter, mais là, vous serez en PLS. La culture est arrivée progressivement, il y a eu des rénovations des cellules. On allait de l'avant après M. Badinter, ça allait de l'avant, et bam, j'ai vu, moi, en intervenant dans toutes les prisons, que ces dernières années, on repart en arrière, on repère tout ce qu'on a gagné. Pour la réinsertion, pour la prévention, pour la lutte contre la récidive, on est en train de tout reperdre.
David Desclos qui joue son spectacle Écroulé de rire en prison, mais aussi dans les lycées, évidemment sur scène. Rachel Badinter, visiteuse de prison, c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit quand vous étiez plus jeune?
Tout à fait. Pendant toute mon adolescence et mon enfance, c'était une idée qui m'avait traversé l'esprit. J'ai toujours pensé comme lui, même petite, même avant de vraiment comprendre son combat, que tout le monde avait le droit à une seconde chance ou à une chance d'avoir une seconde chance. Donc il ne fallait pas casser le lien et que même si on avait fait des choses très moches, on avait le droit d'être un humain. Voilà.
Robert Badinter, panthéonisé aujourd'hui, Éric Fotorino, donc il y a cette image d'unanimité nationale, mais cette politique, notamment de vider les prisons, elle lui a valu énormément de critiques et une bataille politique qui a été féroce.
Oui, il a même été un mal-aimé de la politique après tous ses combats gagnés, parce que, accusé de laxisme, même dans son camp, même à gauche, on considérait qu'il faisait perdre des voix, Badinter, par sa politique sur les prisons. Et lui avait toujours à cœur de dire qu'il fallait humaniser la prison, qu'il fallait agir en prison pour que ce soit plus humain, mais il ne fallait pas le dire. Parce que si on le disait, ça se retournait contre celui qui le décidait, et on lui parlait de prison 5 étoiles, etc. Et je crois que ça a été une souffrance pour lui, une injustice. Je crois qu'on dit souvent que Robert Badinter, c'est l'homme de la justice, c'est vrai, mais parce qu'il ne supportait pas l'injustice. Et je crois qu'il y a eu une injustice envers lui à ce moment-là. Et ça m'a fait penser à Georges Semprin qui avait écrit autrefois L'écriture ou la vie. Après les camps, il avait préféré vivre pour ne pas écrire et avoir des pensées même suicidaires comme Primo Levi. Robert Badinter, il a choisi la vie et c'est un message d'espoir pour beaucoup d'entre nous de se dire on a connu quelque chose de terrible, l'arrachement des siens, et on peut aller défendre des gens qui ont tué.
Quand vous disiez que c'était l'injustice qu'il a vécue, c'est ça, c'est que quelque part, il n'a pas réussi à faire comprendre à beaucoup de gens qu'il fallait aller vers le mieux. Voilà.
La peine de mort existe encore dans plusieurs pays du monde.
Dans plusieurs pays du monde, dans certains, ça revient. Certains nous en parlent ici aussi, à faire des référendums. C'est une bonne chose de rappeler qu'il faut aller vers le mieux.
On va ressortir à l'air libre. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés dans cette visite, cette exposition visible au Panthéon à Paris et dans quelques heures, la panthéonisation de Robert Badinter que vous vivrez avec nous en direct sur l'antenne de France Inter. Justice au cœur pour le nom de cette exposition au Panthéon, prise de son réalisée hier en fin d'après-midi avec Éric Audra, 13h48. L'heure de notre feuilleton. Toute cette semaine, nous sommes à Fécamp, au cœur du port. Dans une institution locale, c'est le marché aux poissons que dirige depuis près de 20 ans Nathalie Le Canu, figure locale. Et parmi ses priorités, il faut remplacer le personnel qui part à la retraite et notamment former les jeunes.
Kevin, t'as fini le poisson ?
Mais je préfère attendre de mettre
le hier, ce qu'on a acheté en prier.
Avec du gros, il reste 4 gros en plus, 500.
Seul blonde, on a tout là ?
Seul blonde, non, il y en a encore.
Et là, bah donc il faut que tu foutes tout. Là, les gros macros, 500 kilos, ça ?
Ouais.
Parce que là, t'as encore une caisse de barbet, tu vois ?
Ouais.
Bah, il faut la mettre. Le poisson, il est fait pour être vendu, il est fait pour être à l'étal. Il y a les vitrines aussi à regarder.
Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie ?
Eh oui, Libby, elle voit tout. C'est bon ?
Bonjour, je me présente, je suis Bois-Cuvier Kevin, je suis poissonnier. Ça fait 4 mois que je suis dans le métier. Je suis arrivé ici parce qu'en fait, Nathalie, c'est l'amie de ma femme. Je l'ai dépannée pour un week-end et puis au final, je suis resté depuis ce week-end. Réveil 5h, petit café, douche, petite balade sur le port en venant au boulot. Puis après, ben, on attaque. Hein. Moi, j'ai l'habitude, je suis fils de commerçant, je suis né sur les marchés. C'est une horaire normale, quoi. De se lever à 5h, ça va. On a 2 jours de repos dans la semaine. Allez, maximum la semaine entre le mardi et le jeudi, on est parti à 15h. Enfin, ça laisse quand même du temps libre. Malgré qu'on fait des heures, après, il y a le vendredi ou le samedi où c'est vraiment plus intensif. Parce qu'il y a plus de boulot, parce qu'il y a plus de clients. Enfin, mais en soi, voilà, 2 jours de repos la semaine, plus les, quasiment tous les après-midi. C'est royal, quoi. Faut que je passe par la criée, aller chercher de la glace ou le poisson qui est arrivé de la journée. Et puis bah, après, on attaque, on met la mise en place de la poissonnerie.
Dans le bouillon, toi, je veux même peut-être pas qu'à mettre 50.
Et Nathalie, elle montre bah, les petites ficelles du métier, quoi. Bah, les cuissons, par exemple, sur tout ce qui est langoustine, des fois la crevette, le homard.
Là, je viens faire cuire de la langoustine pour proposer, malgré. Parce que nous, on cuit aussi à la demande des clients avec le grand appareil que vous voyez à côté qui est un cuivateur. Moi, j'ai mis 40 secondes, les bouillons, les gardes. Pourquoi ? Viens voir. Bah oui, je vais t'expliquer un truc. Quand on fait un bouillon, regarde, elle commençait à cuire d'un bouillon qui était chaud.
Il faut apprendre tous les jours en fait. C'est là où c'est chouette. Moi, c'est un métier que je connaissais pas du tout. En venant la dépanner, je pensais même pas que ça me plairait réellement. Et en fait, au final, je me retrouve où ça me passionne.
Ça me fait plaisir et en plus, quand c'est moi qui lui fais voir, moi je le fais vraiment par passion. Comment on réceptionne la marchandise, comment on la contrôle, comment on la classe, comment on la range, comment on la met sur les étals, comment on regarde sa qualité. Il me manque des pinces d'arrêt. Ah non, c'est en lui apprendre à faire des cuissons de façon à les faire aussi avec amour pour le client, c'est-à-dire avec un bon courbouillon, bien dosé, voilà. Je ne fais pas pour éviter de faire, de moins travailler. Je ne fais pas à l'arrache parce que je m'en fous des gens. Moi, j'aime ce que je fais. Je veux que, en fait, pour moi, c'est comme reprendre un petit peu les choses au début et de lui faire voir tout ce que depuis 20 ans, voilà, et que je laissais peut-être un petit peu aux autres faire, de reprendre les choses. Ça me fait aussi du bien à moi et ça me permet aussi de voir des choses que je ne voyais peut-être plus. À Gilardo. Nous, là, on se trouve à un tournant où on arrive à une génération qui a terminé aussi sa carrière. Parce que ça, moi, j'avais des gens qui sont plus proches des 60 ans que des 20 ans. Puis de voir que les gens peuvent être aussi passionnés encore par notre boulot, évidemment, ça fait plaisir.
Feuilleton signé Mathieu Bonneau, réalisation Vincent Godard. Dernier épisode demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est une chanson pour nous amener jusqu'à 14h avec vous, Frédéric Pommier. C'est une comédienne de la Comédie Française que vous recevez aujourd'hui. C'est Véronique Vella.
Véronique Vella qui donne en ce moment un récital au Théâtre 14 à Paris. Poète, vos papiers avec des textes de Baudelaire, de Rimbaud, de Genet. Et c'est une ballade modignac qu'elle a souhaité que l'on écoute dans la version de la chanteuse brésilienne Elis Regina.
Cette chanson, en fait, je l'ai découverte il y a pas si longtemps que ça, lors d'un séjour professionnel et finalement amical à Salvador de Bahia. J'étais, et je l'avoue avec un peu de honte, absolument pas au courant connaissant extrêmement mal, extrêmement peu, ce qu'on appelle la MPB, la musique populaire brésilienne. Et je suis rentrée de ce séjour à Bahia, d'abord remplie de Bahia, remplie de ces moments, et avec l'envie de me plonger dans la musique populaire brésilienne. Et cette chanson en particulier, Modinha, que j'ai par ailleurs écoutée par plein d'autres interprètes brésiliens et brésiliennes, la version d'Elis sur les arrangements de Carlos Jobim, pour moi, est une perfection. Est une pure merveille. Il n'y a pas un silence à enlever, il n'y a pas une note à mettre à un autre endroit. Je ne sais pas, c'est comme si cette chanson m'avait manqué pendant tout ce temps. Comme quand on rencontre parfois quelqu'un en se disant « mais c'est pas possible, je l'ai rencontré dans une autre vie et depuis tout ce temps, je n'avais pas conscience qu'il me manquait. » Et en écoutant cette chanson, je me suis dit « c'est pas possible que je ne la découvre que maintenant. »
Non. Meu coração viver assim dilacerado, escravizado a uma ilusão que é só desilusão.
C'est en 1974 qu'est sortie cette merveille, Frédéric.
Une merveille dans laquelle Véronique Vella retrouve énormément d'elle-même.
Cette chanson en particulier est pour moi le comble de ce concept pour lequel le portugais a un mot, qui est la saudade, qui est cette espèce de mélange entre la nostalgie mais aussi la joie, les souvenirs heureux, les souvenirs moins heureux, la mélancolie joyeuse. Et pour le coup, la saudade, c'est un concept qui, moi, fait partie intégrante de moi, qui me fonde dans ma vie depuis très très longtemps. Je dis toujours que je suis inconsolable et gay. Être inconsolable n'empêche pas d'être gay.
Vous êtes inconsolable de quoi ?
Je pense qu'on a tous un endroit de nous qui est inconsolable. Inconsolable d'un deuil, inconsolable d'une part d'enfance, inconsolable d'un moment de notre vie qui s'est passé de cette manière-là, dont on aurait aimé qu'il se passe d'une autre manière. Et je suis aussi quelqu'un d'extrêmement joyeux et d'extrêmement gai.
Non.
Un oxymore. La saudade.
Não pode mais meu coração.
Cette chanson-là, est-ce que vous savez ce qu'elle raconte ?
Oui, elle dit « mon pauvre cœur n'en peut plus, mon pauvre cœur est malheureux, voilà, ça peut plus durer comme ça, il y a du chagrin qui sort de ma poitrine, mais il y a une telle lumière dans la manière dont elle dit ça, qu'on sait pas très bien s'il faut qu'on pleure ou s'il faut qu'on remercie la vie que quelqu'un, un jour, ait gravé sur des sillons une telle capacité à dire le chagrin, ou quand on l'entend dans les oreilles, on se dit, il y a donc moyen d'en faire un chef-d'œuvre. Et donc, on regarde le ciel, et même s'il est pluvieux comme aujourd'hui, on se dit, moi aussi j'ai eu des chagrins dans mon cœur, moi aussi ça a rempli ma poitrine, et puis je suis passée à autre chose, et puis la vie est belle, et puis il faut la vivre avec de la joie, ne serait-ce que pour ceux qui ne peuvent plus en profiter parce qu'ils sont 6 pieds sous terre. Hein.
Et puis le soleil revient toujours ?
Moi je crois, ouais. C'est ça, inconsolable et gai. Ouais, c'est que le soleil revient. Il revient, il repart, il revient, il repart. Il revient.
Elis Regina Modinha, c'était donc Frédéric le choix de Véronique Vella de la Comédie Française.
Véronique Vella que vous pouvez retrouver jusqu'au 18 octobre au Théâtre 14 à Paris dans son récital Poète vos papiers.
Merci Frédéric, je vous dis à demain et nous retrouverons évidemment jeudi prochain Marie-Luce Ribot qui nous a manqué aujourd'hui.